Mais c'est pas terminé, cette crise. Évidemment, il prend encore une fois cette semaine quelques instants pour nous parler et beaucoup plus que les 5 minutes qu'on vous promet dans la promo de cette chronique. C'est la pire arnaque radio jamais entendue. Salut, David Gauthier.
Bonjour, Valérie. Comment ça va?
Ben, ça va pas si mal.
Valérie, le problème, c'est qui? C'est-tu moi ou toi? Qui? C'est moi qui parle trop ou toi qui me laisse trop parler?
Je pense que c'est un mélange des deux.
Ah. OK.
Ça qui arrive. Okay. Mais tant que c'est intéressant, on peut pas arrêter ça. David, ceux qui lisent La Presse Plus hier matin et qui se sont intéressés au lavage de mains et à l'hydratation des mains ont pu voir que tu étais cité par le journaliste dans l'article.
Oui, j'ai eu un appel d'un journaliste, un appel inattendu finalement. Il a demandé un peu d'avoir mon opinion sur, finalement, non pas vraiment le lavage des mains, plutôt que quoi faire avec les mains abîmées, finalement.
Oui, suite au lavage des mains. Parce que moi, encore là, moi, je trouve ça drôle parce que, bon, tu sais que j'essaie de prendre toutes mes précautions et ça depuis de nombreuses années dans ma vie. Oui. Ça me fait rire qu'il faut expliquer aux gens comment se laver les mains. Ça me fait aussi rire qu'il y ait des gens qui jettent des lingettes, l'isolent dans les toilettes, qui ne savent pas comment...
Mais on se rend compte que dans un moment de crise comme ça, que il y a beaucoup de nouvelles réalités qu'on a fait en sorte qu'on a des nouveaux problèmes, finalement.
Comme...
qu'on n'avait pas avant, fait qu'on les découvre au jour le jour, puis on essaie de trouver des solutions au jour le jour.
Comme avoir les mains très sèches, comme c'est mon cas aussi, particulièrement l'hiver, là, avec un lavage des mains qui est encore plus fréquent là, pour la majorité des gens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Et d'où l'importance de se nettoyer les mains avec un nettoyant hydratant. Puis, tu sais, c'est sûr que là, tout le monde se lave les mains vraiment souvent et évidemment, c'est important de le faire. Il faut comprendre que quand on se lave les mains de façon intense et répétée, ça fait en sorte qu'on va enlever toujours la petite couche de lipides qu'il y a sur notre peau, qui est une couche de gras que la peau fabrique pour nous protéger. Mais cette couche-là, à force de la laver, elle s'en va. Donc, ça fait en sorte que nos mains sont sujettes finalement aux imperfections et au fait qu'ils vont être beaucoup plus sèches et avec probablement des fissures. Fait que ça nous met beaucoup à risque même de saignements à la limite ou de ça pourrait être même des petites infections. Les bactéries peuvent rentrer là-dedans parce que nos mains vont être fissurées. Donc, finalement, notre barrière cutanée va être brisée. Ces nettoyants-là, c'est drôle, c'est un peu ce qu'on dit dans l'article, puis c'est bien important. Nettoyez-vous les mains avec un nettoyant qui est hydratant le plus possible et faites attention, c'est parce que, tu sais, on veut tellement pas l'avoir, ce fameux virus-là, qu'on va avoir tendance à se laver les mains avec ce qu'il y a de plus fort. Évitez ça. Faites bien, bien attention aux nettoyants qui sont corrosifs, aux nettoyants qui sont trop forts.
Comme l'eau de Javel, mettons.
Ben c'est ça. Puis tu sais, l'eau de Javel, quand on nettoie une surface, là, c'est la portion de 1 dans 9 à retenir, là, ni plus ni moins. Là. Mais faites attention, allez-y plutôt avec un nettoyant qui est hydratant. Et là, ça me ramène au fameux gel. Les gels, là. Et c'est drôle parce que, tu sais, le gel, on dirait que là, tout le monde se lance là-dessus, puis on a tendance à penser que c'est ça qui va guérir tous nos maux, là. Il y a 4 conditions pour que le gel fonctionne bien. OK, le fameux gel alcoolisé, là, hydroalcoolique. Premièrement, il faut que l'exposition soit assez longue. On parlait du lavage des mains qui est une 20aine de secondes. C'est la même chose avec le gel, donc il faut se frictionner pendant 15 à 30 secondes.
On s'entend que dans 95% des cas, on ne le fait pas.
Et voilà. Deuxièmement, la concentration d'alcool dans le gel doit être adéquate. C'est-à-dire, on veut que la concentration d'alcool dans le gel soit entre 60 et 80 %. Okay? C'est ces concentrations-là qui seraient considérées comme les plus efficaces. Il faut savoir une chose, c'est que si on a des gels, là, le monde qui sont à maison, qui se font des solutions, si on met 80 et 90 % d'alcool, évidemment, on a tendance à penser que ça va tuer les bébites, hein? Mais ça serait moins efficace parce que l'alcool a besoin d'eau pour dénaturer les protéines et donc maximiser son effet.
Mmh.
Et là, ça me ramène à... Des fois, on lit sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui prennent leur vodka maison. Mais la vodka, c'est 40 %. Fait que c'est pas suffisant. Donc, bon conseil, non de pharmacien, mais de citoyen. Donc, votre vodka, buvez-la. Finalement, ne la mettez pas sur vous.
Mais pas trop.
Mais exactement, mais pas trop. Tout est mieux quand c'est pas trop. La troisième chose. Les gels hydroalcoolisés, faut les mettre en bonne quantité sur les mains. Donc, si on n'en met pas assez, ça marchera pas. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut les mettre sur une main qui est sèche. Si la main, elle est mouillée, l'absorption se fera pas, donc on n'aura pas l'effet voulu. Fait que tu comprends, Valérie, que le gel aussi a quand même ses mesures à suivre. Et moi, je vous dirais que le gel, gardez-le pour ceux qui en ont besoin.
Mm-hmm.
Donc, si vous avez accès à un savon, vous lavez vos mains fréquemment avec le savon, c'est la chose à faire. Et si vous n'avez pas accès à un savon, là, le gel devient intéressant. Donc, exemple, moi, en pharmacie, je suis à mon comptoir de pharmacie, j'ai pas le temps de me laver toujours les mains. Donc, j'ai le gel qui est à côté de moi, puis j'applique du gel de façon fréquente. Et encore là, en bonne quantité, assez longtemps, puis je sais que la teneur en alcool, elle est bonne à l'intérieur. L'autre chose, le gel est un désinfectant, chose importante à savoir, ce n'est pas un nettoyant. Donc, c'est un désinfectant qui va tuer les bactéries, tuer les virus, c'est bien utilisé, mais ce n'est pas un nettoyant. Fait que vous avez les mains souillées, ou pour la terre, le gel, il nettoiera pas ça, là. Et c'est pas bon contre tout. Et là, on sait que le gel va être efficace contre le fameux coronavirus, mais retenez une chose, c'est que les gels ne sont pas nécessairement efficaces contre les norovirus, qui sont les virus de la gastro-entérite.
Ouais.
Donc, ça remplace pas le lavage des mains.
Non.
Et la fameuse C-Dicil, qui résiste assez bien à ce gel-là. Autre chose importante sur le gel, je disais tantôt que c'est de l'alcool qu'il y a dedans. C'est souvent de l'alcool éthylique qu'ils vont mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous... Moi, ça me sonne. Intoxication possible.
On en a entendu parler de plusieurs cas, d'ailleurs, de gens qui en boivent ou qui sont trop près ou qui en respirent ou qui ont des réactions chimiques aussi avec deux produits qui ne vont pas ensemble.
Mais complètement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est clair, là, de l'alcool éthylique, ça peut donner un état d'ébriété puis ultimement arriver vers un coma éthylique. Donc, ce qu'on a entendu, c'est des cas comme ça. Des fois, c'est par accident, évidemment, là, mais chez les enfants, il faut faire attention. Moi, je vous dirais que les enfants, si vous avez à en mettre, on lui frotte nous-mêmes les mains sur une main qui est sèche et on s'assure que ça soit frotté assez longtemps pour qu'il y ait une absorption. Les gens qui en mettent, et puis Valérie, mes employés me le disent souvent, ils me disent, David, je mets toute la journée, j'arrive chez nous, je me lave les mains, là. Ça sent encore.
Ouais.
Fait que ça reste longtemps. Puis c'est drôle, là, je lisais que les gels avec de l'alcool éthylique étaient même un problème chez les adolescents en milieu carcéral, parce que les gens s'en servaient ni plus ni moins pour avoir un effet relié à l'alcool qui est à l'intérieur. Ceci étant dit, ce qu'on disait aussi par rapport à ça, c'est que à partir du moment qu'on a un problème, c'est-à-dire que le fait qu'on lave beaucoup les mains, puis encore là, ça revient à ce que je disais au début, le fait d'abîmer les mains avec le lavage excessif, qu'on n'a finalement pas le choix de faire, qu'est-ce qu'on fait avec cette main-là? Premièrement, il y a les crèmes hydratantes. Et moi, j'ai tendance à diviser ça en deux catégories. On a les gens qui vont avoir un problème au niveau de leurs mains qui sont abîmées, la barrière cutanée va être abîmée, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup d'inflammation, c'est plus qu'il y a une sécheresse au niveau de la peau. Dans ce temps-là, on va aller avec une crème qui est hydratante. Important, tournez-vous vers des crèmes qui n'ont pas de parfum. C'est sûr que si je prends une main qui est intacte et quelqu'un qui dit qu'il aime ça avoir des mains qui sentent bon puis des mains qui sont douces, mais qui a pas de problème de sécheresse excessive puis qui prend une crème parfumée, moi, ça me va. Dans le contexte actuel, où il y a un lavage des mains qui est fréquent, la crème avec parfum est un problème. Donc, on peut se créer un problème, c'est quasiment une hyper-réaction qu'on va créer parce que le parfum va faire en sorte qu'on va s'irriter les mains. Donc, faites attention à ça. Deuxième des choses, le prix n'est pas un gage de réussite. De qualité, excuse-moi. Donc, regardez les crèmes que vous avez en pharmacie, peut-être demandez conseil, mais il y a des crèmes qui sont à bas prix, qui sont vraiment excellentes, Valérie, qui fonctionnent bien. C'est pas compliqué, hein? Le truc, c'est de le faire souvent, c'est de mettre de la crème hydratante souvent.
Surtout que là, on se lave les mains souvent.
Le pire, c'est que le dermatologue, il y a un dermatologue qui disait ça, il dit, dans le fond, là, tu te laves les mains, tu te mets de la crème. C'est quasiment aussi simple que ça.
Et moi, ce que je fais, et j'imagine que c'est un truc auquel tu vas arriver, c'est que avant d'aller se coucher, quand on sait qu'on va être plusieurs heures sans se laver les mains, c'est peut-être là qu'il faut agir puis de s'en mettre une bonne couche.
Bien, de bien s'hydrater, parce qu'en plus, c'est un bon point, c'est que la peau, elle se régénère mieux pendant qu'on dort, la nuit. Donc, souvent, les gens qui ont des problèmes de peau sèche ou les gens, même au niveau des lèvres, les gens qui ont les lèvres très, très sèches, ce qu'on va conseiller, c'est de faire une application généreuse avant le coucher. Donc, souvent, le matin, on va se lever pour avoir un meilleur effet. Donc, effectivement, là, c'est une bonne chose d'y penser. Les mains qui sont plus abîmées, et c'est là que je parlais de cortisone dans l'article, en pharmacie, on a ni plus ni moins, là, je dirais, deux ou trois sortes de cortisone pour nous aider. Donc, sur le plancher, la plupart des gens connaissent l'hydrocortisone qui est à 0,5%, qui peut aider dans des cas qui sont plus légers. Elle existe aussi en 1% qui est disponible à la pharmacie, soit sur le plancher ou en arrière du comptoir. Donc, les cas qui sont légers à modérés. Donc, cette cortisone-là peut être utile. Et on a aussi une cortisone en arrière du comptoir qui s'appelle du clobétasol, qu'on a le droit de vendre les pharmaciens. Elle est plus forte, par contre. Donc, c'est toujours les mêmes conseils que la cortisone. Il faut le mettre sur une peau qui est plus épaisse, qui est moins à risque. Donc, je te résumerai ça en disant qu'on ne mettra pas une crème de cortisone forte sur un visage. On va la mettre sur une peau qui est plus épaisse, donc sur un bras ou sur une main. Donc, selon l'évolution, selon le cas qu'on a, selon, c'est pas tout le monde qui peut mettre de la cortisone de la même façon non plus. Mais si j'ai une peau qui est très, très inflammée, ben je vais me servir plus d'une cortisone forte pour générer une guérison. L'application, c'est toujours la même chose, c'est qu'on va le mettre souvent deux fois par jour, et ce n'est pas d'en mettre beaucoup de la cortisone, c'est d'en mettre assez longtemps. Donc, c'est pas parce que vous en mettez le jour 1 que le jour 2, ça va bien. Donc, il faut en mettre de façon régulière pendant quelques jours. Souvent, on va viser un 7, 8, 9, 10 jours, et on va dire, une fois que c'est guéri, peut-être faire une journée ou deux de plus que la dispersion visuelle de vos rougeurs, pour être sûr que ça guérisse comme il faut, puis d'après ça, maximiser avec une crème qui est hydratante. Dernière chose.
Oui, vas-y.
Les huiles essentielles.
Ouais.
Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, et tout le monde a l'air à dire que les huiles pourraient être bonnes contre notre coronavirus. Le seul avantage que j'ai trouvé aux huiles dans mes recherches, c'est l'odeur. Ça sent bon.
Ah, c'est tout?
Eh ouais.
Et les exfoliants, ce qui est un petit peu plus abrasif là, pour que la peau morte s'en aille et qu'on ait une belle, belle peau, est-ce que c'est bon, ça?
Ben, dans certains cas, ça peut être bon. C'est juste que des fois, exemple, il y a des crèmes qui vont comporter de l'urée, qui a un effet qu'on dit kératolytique, donc qui va enlever le surplus de peau morte. Ça peut être très, très bon dans certains contextes. C'est juste que ça peut aussi brûler sur le cou un petit peu. Fait qu'il faut faire attention. Donc, tu sais, des fois, sur des pieds, on va l'utiliser beaucoup, l'urée. Puis encore là, il y a des pourcentages d'urée dans certaines crèmes. Fait que encore là, il faut voir, là, ça dépend des cas. Moi, j'aurais tendance, dans le contexte actuel, vu qu'il y a un lavage des mains qui est plus excessif, et quelqu'un qui se lave les mains 30 puis 40 fois par jour, Valérie, là, moi, j'aime mieux que ce soit un savon qui est doux avec une crème hydratante qui est douce, pas de parfum, parce que le lavage est tellement fréquent qu'on est mieux de maximiser une crème, finalement, qu'on n'a pas, qui est pas trop forte, mais qu'on met souvent, qui est très, très, très hydratante.
David, on n'a plus de temps, mais je vais quand même te poser ma question que j'ai failli te poser hors d'onde. Puis je disais, hey, je vais en faire profiter les gens. Encore une fois, au point de presse de M. Legault, en début d'après-midi, on a parlé d'une façon de s'immuniser de manière collective et naturelle. J'aimerais ça, moi, savoir si, pour être immunisé, il faut absolument attraper le virus ou seulement le fait d'être en contact avec le virus et de développer des anticorps, ça fait qu'on est immunisé.
À vrai dire, quand on parle d'immunité, c'est de développer des anticorps. Parce que pour être immunisé contre quelque chose, ça veut dire que notre corps, lorsqu'il va rentrer en contact avec le virus, va savoir se défendre.
OK.
Donc, il faut avoir développé les anticorps. Pour ça, ça ne veut pas dire, par contre, tomber malade.
OK.
Donc, quelqu'un qui est en contact avec le COVID, qui n'a pas développé de symptômes, qui est en pleine santé tout le long, mais qui l'a et a été en contact, son corps a développé des anticorps sans qu'il sache, et cette personne-là est devenue immunisée. C'est comme si elle avait été vaccinée. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on se rend compte qu'avec le temps, peut-être que bien du monde dans la population vont devenir immunisés, donc vont être, entre guillemets, vaccinés. On n'aura jamais été malade parce qu'ils sont asymptomatiques, mais ils vont pouvoir finalement protéger les autres parce qu'eux autres-mêmes vont être protégés.
D'où l'idée d'y aller graduellement, évidemment.
Exactement, puis d'y aller avec des populations qui sont moins à risque de complications. Comme ça, on va se créer une immunité collective et on va finir par s'en sortir.
David, merci beaucoup pour toutes ces informations, encore une fois.
C'est toujours un plaisir, puis je vais être là jeudi prochain.
D'ici là, ben, on peut aller te voir chez Brunet si on a des questions.
Oui, on est là, fidèle au poste.
À la semaine prochaine.
Et bye-bye. Bye-bye.